Vous êtes toujours à l'écoute du RESF sur Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3 à Paris et proche banlieue, www.rfpp.net pour nous suivre en streaming partout dans le monde. On écoutait Laurent Charles, avocat, parler de l'extension des mesures d'éloignement dans la nouvelle loi Asile et Immigration, enregistrée à l'occasion de la dernière réunion publique de l'Observatoire de l'enfermement des étrangers, le 3 décembre dernier. Et on va maintenant écouter Camille Gendreau nous parler des restrictions de l'accès à la justice dans cette réforme du CESEDA ou du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile.
Camille Gendreau, la restriction de l'accès à la justice.
Bonsoir à tous. Donc on a vu les mesures d'éloignement. Moi, je vais vous parler d'autres restrictions qui éloignent en fait les personnes des tribunaux, mais aussi de la justice. On a de nombreuses dispositions au sein de la nouvelle loi qui vont extrêmement restreindre, voire même dans certaines situations, empêcher l'accès à la justice pour les personnes étrangères. Alors cela va passer par une réduction en pratique de certains délais de recours et surtout une complexification de leurs calculs, par des refoulements qui vont être de plus en plus expéditifs ou des moyens techniques qui vont être utilisés pour maintenir les personnes en comparution hors des tribunaux, alors physiquement hors des tribunaux. Alors j'ai décidé de plutôt vous parler de 5 mesures assez symptomatiques de ce mouvement finalement de restriction. D'abord avec 2 mesures qui concernent principalement le droit d'entrée des étrangers en France, avec la suppression du droit au jour franc aux frontières terrestres françaises et le maintien de cette absence du droit au jour franc à Mayotte, et aussi la possibilité qui a été étendue aujourd'hui au droit d'entrée des personnes en France du rejet au tri pour les décisions de maintien en zone d'attente par le président de la cour d'appel. Ensuite, je vais vous parler assez rapidement de la possibilité du recours à la visio-audience qui aujourd'hui qui est une mesure qui est assez transversale finalement de cette nouvelle loi et qui ne nécessite plus le consentement de la personne étrangère. Et puis enfin, je vais un peu arriver sur la question du droit d'asile et certaines mesures qui vont vraiment complexifier l'accès à la justice pour les personnes étrangères, avec la convocation par exemple par tout moyen à l'entretien OFPRA, mais aussi des mesures qui vont complexifier finalement le calcul du recours au niveau de la CNDA pour les personnes et qui risquent évidemment d'avoir un impact important pour l'accès aux juridictions de recours pour les personnes étrangères. Alors tout d'abord sur la suppression du jour franc aux frontières terrestres et son maintien à Mayotte. Le jour franc, c'est vraiment un droit qui permet à la personne, lorsqu'elle a un refus d'entrée sur le territoire français, d'avoir un sursis, une sorte de sursis de 24 heures qui va avant son réacheminement, c'est-à-dire 24 heures pendant lesquelles on ne va pas pouvoir vous refouler et vous renvoyer du territoire français. Ça va lui permettre d'effectuer des démarches importantes, d'abord de contacter toute personne de son choix. Ça va être contacter un conseil, ça peut être voir un médecin, contacter les proches pour dire ce qu'il en est, ce qui se passe, mais ou simplement déposer une demande d'asile ou encore régulariser a posteriori la situation. Donc c'est quand même 24 heures qui sont vraiment cruciales pour la personne lors de son arrivée aux frontières françaises. La nouvelle loi, donc, elle supprime ce droit aux frontières terrestres françaises, donc ça va comprendre les frontières internes à l'espace Schengen, mais aussi les frontières en Guyane, et maintient son exclusion à Mayotte. Ça va morceler encore un peu plus le droit applicable aux frontières, et véritablement morceler le droit qu'on va pouvoir appliquer en fonction de la localisation du lieu de passage de la frontière. Mais ça va permettre aussi des refoulements expéditifs. Voilà, vous arrivez à la frontière aujourd'hui à Menton, on peut directement vous refouler en Italie et vous n'avez pas accès à ce droit. Alors c'est un droit qui avait déjà été restreint parce qu'il était d'abord d'application de plein droit, donc normalement dès le départ on vous appliquait ce droit des 24 heures. Il avait déjà été restreint et maintenant il fallait demander de bénéficier de ce droit au jour franc. Alors avec toutes les difficultés qu'il y a de connaître ce droit au jour franc qui existait déjà et la difficulté de le demander, maintenant il n'est plus applicable donc, dans ces cas. Et donc va aggraver la difficulté d'accès à la justice pour les personnes qui vont se présenter aux frontières. Ça va aussi aggraver sérieusement la situation des mineurs isolés parce que la nouvelle loi ne prévoit plus l'application de ce droit aux mineurs isolés aux frontières internes et en Guyane. Alors que jusqu'ici, tous les mineurs isolés, peu importe le lieu de passage frontalier, bénéficiaient automatiquement de ce droit au jour franc, ce qui évidemment heurte les principes qui imposent que les enfants fassent systématiquement l'objet, comme tout mineur en danger, de mesures de protection, et principalement, et donc aussi aux frontières. Sinon, cette mesure, évidemment, elle est aussi intéressante de se rappeler que cette mesure, elle était donc applicable à Mayotte. Et ça nous montre bien encore une fois que toutes les mesures qui sont prises au niveau de l'outre-mer sont souvent les lieux de laboratoire de mesures qui vont être étendues par la suite sur le territoire de la métropole. Et là, on a véritablement l'utilisation d'un droit qui était déjà applicable à Mayotte, qui était appliqué en pratique, en fait. C'était une pratique qui était déjà présente aux frontières internes de l'espace Schengen, principalement à la frontière franco-italienne, et qui a véritablement, maintenant on a permis finalement sa légalité, on a légalisé une pratique de la police au niveau des frontières internes. Une autre faculté a été offerte par la nouvelle loi, c'est la faculté qui est offerte au premier président de la cour d'appel ou son délégué de rejeter au tri les appels des décisions de maintien en zone d'attente. Alors cette mesure, elle a en fait dupliqué une disposition de la loi de 2016 qui avait été mise en matière de contentieux du maintien en rétention, et elle permet donc de rejeter un appel les conditions de recevabilité de l'appel ne sont pas respectées. Alors il faut savoir que c'est un risque qui est très important pour les personnes de ne pas pouvoir accéder à cet appel, parce que les conditions de recevabilité des appels sont extrêmement contraignantes. C'est un délai de 24 heures, donc c'est un délai qui est très bref pour faire appel. Il faut que l'appel soit motivé en fait et en droit, et surtout qu'il soit rédigé en français. Or, l'accès à un interprète en zone d'attente n'est pas prévu, ou seulement dans les cas prévus pour l'administration ou devant la justice. Et donc, les personnes sont souvent seules, sans interprète, et ne peuvent pas finalement rédiger en français leur appel. Et puis, une question pratique, elles n'ont pas accès non plus à un fax, donc qui ne permet pas finalement de faire appel, sauf si elles ont le concours soit d'un avocat, soit d'une association présente en zone d'attente, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, on a cette grande mesure transversale qui vraiment va restreindre l'accès physique, là cette fois-ci, des personnes étrangères aux juridictions, qui est la généralisation de la possibilité de recourir à la visio-audience, pour les personnes qui comparaissent devant les juridictions. Donc il y a 6 dispositions dans la nouvelle loi qui le permettent, et qui vont décliner finalement cette possibilité, et surtout aujourd'hui n'ont plus besoin du consentement de la personne étrangère pour recourir à ces moyens. Alors ça, c'est en contradiction totale avec des recommandations qui avaient été faites par exemple par le CGLPL en février 2018, qui avait dit que cette absence de consentement était inacceptable, mais on retrouve quand même finalement dans la nouvelle loi cette absence de consentement. Alors, selon l'étude d'impact de la loi, cette mesure viserait à alléger les contraintes qui pèsent sur les juridictions et les services de police et assurer le respect de la dignité des personnes en les préservant de l'atteinte au siège des juridictions et des transferts parfois répétés. C'est une évolution qui était malheureusement assez prévisible. Par exemple, sur le contentieux à la frontière, on avait déjà eu des mesures d'éloignement des personnes des juridictions ordinaires, avec l'annexe par exemple du TGI de Bobigny qui avait été installé sur les pistes de Roissy, et on avait déjà eu finalement un nouveau lieu qui n'était pas le lieu de la justice ordinaire pour les personnes étrangères. Alors, le recours n'est pas systématique, hein, il n'est pas prévu systématiquement dans la loi, mais est véritablement un pas déterminant vers la systématisation d'utilisation des techniques audiovisuelles dans le contentieux du droit des étrangers. Alors, il y a de nombreux dangers qui ont déjà été vus et décrits, alors principalement parce qu'on a déjà eu, des mesures d'utilisation de moyens audiovisuels dans le contentieux des étrangers, et principalement par exemple à Mayotte, on a déjà beaucoup de témoignages qui ont été faits sur cette question, avec comme danger le caractère évidemment impersonnel que cela amène, le fait de faire perdre au juge l'appréhension humaine et sensible des personnes qui comparaissent, mais des questions aussi qui se posent sur la place des avocats. Où vont être les avocats? Vont-ils être auprès de leurs clients, ou vont-ils être près du juge? Et donc évidemment, cela a un impact important sur le déroulé de la séance, et puis la place de la caméra, qui va évidemment accroître la déstabilisation de la personne. Parler devant une caméra, c'est évidemment pas du tout la même chose que de parler devant un juge en personne. Et puis des problèmes techniques qui sont très très fréquents, des coupures, on s'entend mal, on n'arrive pas à voir l'image de façon fixe ou de façon diffuse pour comprendre ce qui se passe, et qui sont évidemment autant d'obstacles qui vont permettre une bonne compréhension entre les différentes parties de la comparution. Alors ces mesures d'éloignement, elles éloignent, ces mesures pardon, audiovisuelles vont évidemment éloigner encore davantage les personnes des juridictions. Par exemple, en zone d'attente, un demandeur d'asile qui aura pu être déjà auditionné par visioconférence par l'OFPRA pourra se voir son recours contre la décision du ministère de l'Intérieur examinée par vidéo-audience par le tribunal administratif, tandis que l'audience devant le juge de la liberté et de la détention qui statue sur son maintien en zone d'attente pourra aussi avoir lieu par recours aux outils audiovisuels, et à la suite de quoi sa requête pourra être rejetée au tri. Et donc tout au long de la procédure, finalement, l'étranger n'aura jamais vu en présence physiquement un juge et n'aura jamais été audiencé physiquement donc tout le long avant d'être éloigné. Donc on voit aussi tout le caractère important que ça va pouvoir avoir sur les personnes étrangères qui ont déjà l'impression d'être victimes de justice d'exception, et là elles vont être encore plus éloignées finalement de la justice ordinaire, et l'impression d'être finalement audiencées différemment et de ne pas avoir accès à la même justice que tout le monde. Et puis devant la CNDA, cela va évidemment poser la question du principe de la présence de l'interprète auprès du demandeur d'asile, parce que la nouvelle loi prévoit qu'en cas de difficulté d'obtenir finalement le concours physique du demandeur d'asile, de l'interprète auprès du demandeur d'asile, l'audience pourra tout de même se tenir dès lors qu'un interprète se trouve dans la salle d'audience, et donc évidemment encore un éloignement, une isolation encore plus finalement du demandeur d'asile. Alors concernant la procédure d'asile, il y a aussi plusieurs mesures, nouvelles dispositions qui ont vraiment impacté finalement l'accès. Qui vont vraiment impacter l'accès à la justice. Alors d'abord, la convocation par tout moyen à l'entretien, OFPRA. Alors ça, c'était dans un objectif de simplification administrative et de réduction des coûts et des délais de traitement des demandes d'asile. L'OFPRA pourra désormais convoquer les demandeurs d'asile par message électronique ou par SMS, et non plus uniquement par envoi postal simple. Alors il faut noter que les moyens qui seront précisément mises en œuvre pour garantir la confidentialité et la réception effective de la convocation n'ont pas encore été définis par la loi. Ils devront l'être par décret. Et il est d'ailleurs question de la mise en place d'une plateforme Internet par l'OFPRA, ce qui pose évidemment de nombreuses questions d'accès à Internet et d'information des demandeurs d'asile. La dématérialisation, elle suppose aussi du coup l'accès continu à un téléphone portable ou à une adresse électronique pour les étrangers. Et à défaut, va rendre les demandeurs d'asile encore plus tributaires d'une tierce personne. Et donc, évidemment, ça renforce la difficulté d'accès, finalement, aux informations pour la personne. Évidemment, on voit que ça va sûrement augmenter. Il y a un véritable risque que les convocations soient ratées, soit se multiplient, finalement. Et avec pour conséquence, évidemment, le rejet de la demande d'asile pour les personnes concernées. De plus, cette convocation par tout moyen va soulever véritablement la question de la participation du tiers observateur à l'entretien, qui constitue une garantie procédurale donc importante. En effet, on peut se demander comment la personne va être informée de son droit à être accompagnée par un avocat ou une association habilitée quand elle reçoit un SMS pour sa convocation au niveau de la demande d'asile. Ensuite, on a aussi la question des délais de recours devant la CNDA et de demande d'aide juridictionnelle. Là, on voit que le projet de loi va aussi rendre encore plus compliqué le calcul des délais de recours, et va donc sûrement amener à ce que de nombreux demandeurs d'asile ne puissent pas finalement avoir accès à ce recours. Alors, le projet de loi prévoyait initialement la réduction du délai de recours. La loi, je suis désolée, je suis encore... j'étais encore persuadée qu'on arriverait à ne pas la faire passer. Non, alors la loi, pardon, excusez-moi. Par contre, le projet de loi, lui, prévoyait la réduction du délai de recours devant la CNDA d'un mois à 15 jours. Alors finalement, la loi n'a pas modifié le délai de recours en lui-même, mais la pratique est toutefois susceptible de véritablement diminuer ce délai de recours. dès lors que la notification de la décision de l'OFPRA est désormais effectuée par tout moyen, donc sans qu'il y ait besoin d'attendre l'écoulement des délais d'acheminement postaux. Et puis, cette modification est d'ailleurs destinée à concourir à l'objectif de réduction de la durée globale des demandes d'examen des demandes d'asile. Alors, sur la demande d'aide juridictionnelle, le demandeur d'asile dispose aujourd'hui seulement de 15 jours pour introduire une demande d'aide juridictionnelle. Et il ne peut donc plus l'introduire en même temps que le recours adressé à la CNDA si celui-ci est formé au-delà du 16e jour jusqu'à la fin du mois du temps de recours. Donc, l'introduction de la demande d'aide juridictionnelle n'interrompt plus le délai de recours devant la CNDA, et ça, c'est un point important. Le délai est seulement suspendu. Et donc, les nouvelles dispositions rendent difficile le calcul en combinant, évidemment, toutes ces nouvelles mesures. Donc, les nouvelles dispositions rendent difficile le calcul en combinant un délai franc, se comptant en mois, avec un délai en jour qui court entre la notification de la décision de l'OFPRA et l'introduction de la demande d'aide juridictionnelle. Il y a donc un risque d'erreur qui est à craindre sur le point de départ du délai et donc sur le calcul du délai restant à courir. Donc ces mesures sont véritablement des symptômes de l'économie entière de cette nouvelle loi qui restreint encore plus l'accès des personnes aux juridictions. Elle restreint dès lors leur accès à leurs droits, mais renforce aussi le sentiment d'avoir accès qu'à une justice exceptionnelle, différente en tout cas des autres citoyens, en les éloignant physiquement donc des tribunaux. Ouais.